Certains d'entre vous ont peut-être vu tout récemment le téléfilm qui s'appelle « Apprendre à t'aimer », qui relate le désarroi d'un couple qui accueille la naissance d'une petite fille trisomique. Ce film a eu un grand succès. Il y a eu, je crois, 4 millions de téléspectateurs entre la présentation à la télévision et le replay. Et avec mon épouse, nous avons été bouleversés, non pas qu'il y ait du pathos à travers ce film, ni du mélo, mais il y a quelque chose de très puissamment existentiel, je dirais ontologique, c'est-à-dire qui a vraiment trait à la vie, à l'être. Et je me suis rendu compte que ce bouleversement intérieur, alors que nous n'avons pas dans notre entourage de personnes qui soient affectées par cette anomalie chromosomique, eh bien, elle était due à quelque chose d'assez universel. Ce sont les vulnérabilités que nous avons tous. Et finalement, ce film avait le grand mérite de nous renvoyer à nos vulnérabilités. Et c'est en quoi il est aussi bouleversant. Car finalement, quand nous y réfléchissons, nous sommes tous de quelque manière des handicapés du cœur, parce que nous avons des incommunicabilités, nous avons des inadaptations dans le monde dans lequel nous vivons. Parfois, nous aimerions que la réalité soit autre que celle que nous vivons. Nous aimerions être mieux insérés, et tout ça fait nos handicaps. Et puis, il y a un handicap de surcroît qui, lui, est très présent dans notre vie de tous les jours, c'est justement nos difficultés relationnelles. Alors ces difficultés relationnelles, elles viennent de très loin, elles viennent de la différence d'accepter l'autre dans sa divergence d'opinion, de vue, de point de vue, de sensibilité également, masculine ou féminine. Et puis, nous le remarquons régulièrement, tout conspire dans ce monde à séparer ce qui est uni. Puis il y a une petite nouveauté quand même qui rend l'exercice encore plus difficile dans l'apprivoisement et dans la relation proprement dite, saine, équilibrée, harmonieuse, comme on aimerait qu'elle soit, c'est que actuellement il y a une espèce de déconstruction et de stigmatisation également des identités. J'entends par là qu'aujourd'hui les identités deviennent très floues. Pourquoi ? Parce que sont remises en cause à la fois l'identité masculine, après des siècles de côté machiste et de patriarcat, qui a évidemment été mise à l'encan. Et puis de l'autre côté, le sexe dit faible s'est rebellé parce que cette appellation lui paraissait méprisante, usurpée et très enfermant un peu plus la femme dans un rôle subalterne. Donc cette revendication égalitaire a brisé quelque chose dans la relation. Alors je ne dis pas que ces revendications soient illégitimes, je dis simplement qu'il y a dans l'harmonie recherchée, l'harmonie relationnelle, une sorte de fracture. Et en fait, nous apercevons que notre société est tout sauf une société de confiance. C'est devenu une société dominée par la culture de l'affrontement. Nous ne sommes plus du tout dans la culture du dialogue. Et cela, on le voit à travers des émissions, qu'elles soient politiques ou même de divertissement. Tout conspire justement à amener au clash pour qu'il y ait du buzz, pour reprendre les expressions à la mode. Et finalement, on se repaît de ces divisions perpétuelles. Et cela a une influence, une incidence sur notre manière de nous comporter dans la vie privée. Tout se passe comme si finalement le rapport de force était notre manière d'être en face de l'autre. Et précisément, il s'agit de voir dans quelle mesure ce rapport de force ne pourrait pas être converti en chemin d'alliance, ou dans un univers moins personnel, moins affectif, moins privé, dans une relation de coopération, comme on pourrait l'avoir dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale. Certains en ce moment font l'apologie des synergies collaboratives dans le monde de l'entreprise pour montrer que finalement ces relations de hiérarchie, ces relations conflictuelles, à celles-ci on peut substituer finalement des relations de confiance et il faut les restaurer. Alors je crois qu'aujourd'hui le grand défi des femmes et a fortiori le grand défi des hommes également, c'est de mettre en œuvre cette phrase très poétique et à la fois très incarnée d'un grand poète qui s'appelle Paul Valéry et qui disait « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. » Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. C'est une manière de montrer que les confrontations que nous avons, elles doivent être converties en complémentarité. Que les duels que nous avons, ils doivent être convertis en duo. Et finalement, que nous avons à pacifier toutes ces relations auxquels nous aspirons dans la paix du cœur et qui bien souvent sont trop conflictuelles. Alors, nous avons bâti toutes sortes de stratégies d'évitement ou de réconciliation à travers l'exercice de la psychologie. Alors, je ne vais pas me faire que des amis en décriant un petit peu les apports de la psychologie, non pas en en faisant le procès, car je pense que la psychologie est un excellent moyen pour, dans la connaissance de soi et justement pour apaiser des conflits. Bien sûr que la psychologie a son mot à dire, mais ce que je récuserais dans une tendance de la psychologie à tout craint, c'est que finalement la psychologie considère la vie comme une série de problèmes à résoudre, et l'autre, finalement, comme un problème à résoudre, alors qu'il s'agit avant tout d'un mystère à respecter. Ce qui est un point de vue très différent. Voyez. La vie n'est pas un mystère, n'est pas une série de complexités relationnelles à partir desquelles nous mettrions en œuvre des boîtes à outils, des techniques qui nous permettraient justement de résoudre, soi-disant, des problèmes. L'autre n'est pas un problème, ou alors si on le considère comme tel, ça signifie qu'on a tendance à l'instrumentaliser et à chercher des stratégies. Or, les stratégies, ça n'est pas la pureté ou la sincérité du cœur. Ce qui doit nous conduire véritablement, c'est le désir d'alliance que nous pouvons avoir avec les autres, et en particulier l'autre avec un grand A. Parmi les outils précisément mis au point par la psychologie, il y a en particulier le développement personnel, qui a eu un essor considérable, pas seulement ces dernières années, mais depuis des décennies. Et je trouve que là aussi, le développement personnel, il y a le meilleur et le pire. J'entends par là que dans l'appellation développement personnel, il y a quelque chose de bancal. Pourquoi personnel? Pourquoi personne ne parle de développement altruiste? Finalement, à travers le développement personnel, il y a une tentation de sournoise ou inavouée de retour à soi, de prise des commandes finalement, de prendre autorité sur sa vie et peut-être sur celle des autres, précisément en les instrumentalisant. Donc là, il y a un danger, le danger d'une introspection souffreteuse, alors que je suis le premier à faire l'apologie de l'intériorité, c'est-à-dire ces grandes plages de silence et de solitude où nous faisons le point sur nous-mêmes, sur la relation qui nous lie aux choses et aux fondamentaux que nous aimons défendre. Mais à un moment, il faut faire très attention à ne pas rester dans un huis clos qui finalement peut être très confortable avec le délice très romantique de se sentir incompris et d'être le blanc chevalier dans un monde hostile. Donc faisons attention justement à ce que ce développement personnel ne soit pas une sorte de cocon qui nous affranchit d'affronter les sévérités de l'existence et l'altérité aimante à laquelle nous appelle l'autre. Et la grande difficulté à travers justement le développement personnel, c'est qu'il a tendance à exacerber ou à exalter le moi d'abord au détriment du don de soi. Et je crois que là se joue vraiment le grand débat, je dirais, qui peut avoir lieu dans cette thématique couple, duel ou duo. C'est-à-dire que le moi d'abord, c'est précisément cet enfermement égocentré qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. C'est assez amusant de voir que finalement, la seule manière d'être nous-mêmes, c'est de nous effacer pour donner la priorité à l'autre. Et à cet égard, j'aimerais citer une phrase très paradoxale, très intrigante, très parlante, et qui amène vraiment une quête d'approfondissement, une phrase de Morellet qui dit « Le bonheur, on ne le trouve pas en le cherchant, on le trouve en le donnant. » Et j'ai envie de reprendre exactement cette même proposition, mais pour embrasser ou embraser le thème de l'amour. On pourrait dire de la même manière, finalement, l'amour, on ne le trouve pas en le cherchant, mais en le donnant. Et c'est donc dans cette altérité aimante, dans ce bienheureux abandon à l'autre, que nous pouvons justement arriver à trouver un épanouissement et accompagner une réconciliation. Je disais à l'instant que l'autre ne doit pas être considéré comme un problème à résoudre, mais comme un mystère à respecter. Or, dans le mystère, il n'y a pas d'expert. On est démuni. Un mystère, ce n'est pas justement quelque chose qu'on peut résoudre comme une équation sentimentale ou autre. On ne peut pas arriver à comprendre les ressorts du mystère. Et c'est tant mieux. Car l'autre, s'il est considéré comme un mystère, ne peut pas être chosifié, ne peut pas être instrumentalisé. Il faut l'accepter non seulement dans sa différence, mais dans son évolution et jusqu'à son imprévisible. Car nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous serons dans quelques années, et nous ne savons pas ce que l'autre sera également dans quelques années. Donc il faut accepter cette mobilité du réel, cette mobilité de la vie, et cette imprévisible de l'autre, qui fait partie de la richesse de la relation également. Il faut l'accepter comme telle. Je dirais également que, à cette émotion qui gouverne beaucoup notre manière d'être avec les autres, il faudrait peut-être substituer la notion de motion. Émotion, émotion, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'émotion, c'est ces choses qui gouvernent vos sentiments, ces choses qu'on a tendance à dire venant du cœur, et qui en fait sont parfois sujettes à frivolité, et ça peut accompagner des mouvements du cœur assez éphémères en somme. Or, la motion intérieure, c'est quelque chose de beaucoup plus enraciné, quelque chose qui nous traverse et qui nous vient d'ailleurs en quelque sorte. C'est un mouvement extrêmement profond et qui nous conduit à un élan d'amour, à un élan, à une conviction, à un rêve, à une espérance pour demain. Mais c'est quelque chose qui ne nous traverse pas comme une émotion, mais au contraire est un élan extrêmement profond, une sorte de nécessité intérieure. Et ça, il faut vraiment y être très attentif. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un grand ami qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Je sais, je ne suis pas le seul à être l'ami de cet auteur, mais j'aimerais vous en parler, non pas seulement sous l'angle de l'œuvre très connue, heureusement très connue d'ailleurs, par bon nombre de personnes à travers le monde, qui s'appelle Le Petit Prince, bien sûr, avec cette phrase notamment inoubliable, qui est une clé des relations humaines. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais j'aimerais vous en parler à travers une œuvre qui est moins connue, qui s'appelle Citadelle, et qui a accompagné mes jeunes années, notamment d'extrême adolescence, pour justement me plonger dans un univers qui est à la fois très poétique, mais très incarné dans le sens d'une métaphore absolument magnifique et prodigieuse réalisée par le grand écrivain. Et dans ce livre, tout à fait à la fin, il est question du jardinier. Et à la fin, Saint-Exupéry confesse « Moi, j'aurais aimé être jardinier. J'étais fait, dit-il même, pour être jardinier. » Et à la fin, c'est un peu comme une consécration, il dit « Ce matin, j'ai taillé mes rosiers. » Comme s'il s'agissait de l'aboutissement, de l'accomplissement, de la réussite parfaite, de l'accomplissement individuel et de la plénitude. « J'ai taillé mes rosiers. » Alors, bien évidemment, dans la bouche de l'écrivain aviateur dont on connaît la poésie, il y a quelque chose de très métaphorique, car il est question de jardin intérieur. Et je crois, et ça va être un petit peu mon mot de la fin, qu'il nous faut apprendre à devenir des jardiniers d'amour. C'est-à-dire au même titre que l'art, parce que quelque part, oui, l'amour est un peu similaire à l'art des jardins. C'est-à-dire qu'il nous faut respecter les saisons, il nous faut apprivoiser tout l'environnement extérieur, il nous faut surtout sarcler, il nous faut aussi enlever très souvent les mauvaises herbes, et c'est un perpétuel recommencement. Les mauvaises herbes de l'égoïsme, de l'égocentrisme, je parlais du « moi d'abord » tout à l'heure, toutes ces choses qui sont relatives à l'orgueil, bref, tout ce qui naît de cet égocentrage, de cet égocentrisme. Et puis, il nous faut également retourner la terre pour qu'elle soit bonne, qu'elle soit propice aux éclosions, qu'elle soit fertile. Et ce retournement de la terre pour les choses du cœur, eh bien, ça s'appelle la conversion, c'est-à-dire qu'il faut nous convertir notre cœur vers l'amour, nous débarrasser finalement de tout ce qui empêche ces éclosions qui pourraient faire de notre jardin intérieur quelque chose de magnifique. Et puis s'efforcer, il ne s'agit pas uniquement d'un jardin personnel, s'efforcer d'inviter l'autre dans notre jardin, et s'inviter ou attendre que l'autre nous invite, en respectant évidemment son rythme, son temps long, ses saisons, dans son jardin intérieur. Et pour cela, il faut infiniment de patience, infiniment de soins, de précautions, pour arriver à faire en sorte que coexistent dans une même unité de création, et bien précisément toutes ces éclosions et tout ce qui célèbre la beauté. Et la beauté dans la relation, bien évidemment, s'appelle l'amour. Et je crois vraiment que cette métaphore du jardinier est absolument essentielle pour nous apprendre à aimer, pour reprendre un peu le titre du film que j'évoquais au tout début de cette petite intervention, c'est-à-dire apprendre à aimer, car effectivement, c'est un apprentissage, mais un apprentissage du cœur qui ne passe pas par les livres, qui ne passe pas par des techniques, aussi profitables soient-elles, mais qui passe avant tout par une ouverture, j'allais dire une dilatation du cœur, pour vraiment faire en sorte que nous soyons dans le don de soi. Merci.